Mémoire d'outre-tombe de François-René de Chateaubriand, deuxième partie, livre quinzième. Année de ma vie 1803. Manuscrit de Madame de Beaumont. Lettre de Madame de Caux. 2. Arrivée de Madame de Beaumont à Rome. Lettre de ma sœur. 3. Lettre de Madame de Krudner. 4. Mort de Madame de Beaumont. 5. Funérailles. 6. Année de ma vie 1803. Lettre de M. Chênedollé, de M. de Fontane, de M. Necker et de Madame de Staël. 7. Année de ma vie 1803 et 1804. Première idée de mes mémoires. Je suis nommé ministre de France dans le Valais. Départ de Rome. Chapitre 1. Paris 1838. Revue le 22 février 1845. Année de ma vie 1803, manuscrit de Madame de Beaumont, lettre de Madame de Caux. Quand je partis de France, nous étions bien aveuglés sur Madame de Beaumont. Elle pleura beaucoup, et son testament a prouvé qu'elle se croyait condamnée. Cependant, ses amis, sans se communiquer leurs craintes, cherchaient à se rassurer. Ils croyaient au miracle des eaux, achevées ensuite par le soleil de l'Italie. Ils se quittèrent et prirent des routes diverses. Le rendez-vous était Rome. Des fragments écrits à Paris, au Mont d'Or, à Rome, par Madame de Beaumont et trouvés dans ses papiers, montrent quel était l'état de son âme. Paris. Depuis plusieurs années, ma santé dépérit d'une manière sensible. Des symptômes, que je croyais le signal du départ, sont survenus sans que je sois encore prête à partir. Les illusions redoublent avec les progrès de la maladie. J'ai vu beaucoup d'exemples de cette singulière faiblesse, et je m'aperçois qu'ils ne me serviront de rien. Déjà, je me laisse aller à faire des remèdes aussi ennuyeux qu'insignifiants, et sans doute, je n'aurai pas plus de force pour me garantir des remèdes cruels dont on ne manque pas de martyriser ceux qui doivent mourir de la poitrine. Comme les autres, je me livrerai à l'espérance. À l'espérance. Puis-je donc désirer de vivre ? Ma vie passée a été une suite de malheurs. Ma vie actuelle est pleine d'agitations et de troubles. Le repos de l'âme m'a fui pour jamais. Ma mort serait un chagrin momentané pour quelques-uns, un bien pour d'autres, et pour moi, le plus grand des biens. Ce 21 floréal, 10 mai, anniversaire de la mort de ma mère et de mon frère. Je péris la dernière et la plus misérable. Oh, pourquoi n'ai-je pas le courage de mourir ? Cette maladie, que j'avais presque la faiblesse de craindre, s'est arrêtée, et peut-être suis-je condamné à vivre longtemps. Il me semble cependant que je mourrai avec joie. Mes jours ne valent pas qu'il m'en coûte un soupir. Personne n'a plus que moi à se plaindre de la nature. En me refusant tout, elle m'a donné le sentiment de tout ce qui me manque. Il n'y a pas d'instant où je ne sente le poids de la complète médiocrité à laquelle je suis condamné. Je sais que le contentement de soi et le bonheur sont souvent le prix de cette médiocrité dont je me plains amèrement. Mais en n'y joignant pas le don des illusions, la nature en a fait pour moi un supplice. Je ressemble à un être déchu qui ne peut oublier ce qu'il a perdu, qui n'a pas la force de le regagner. Ce défaut absolu d'illusion, et par conséquent d'entraînement, fait mon malheur de mille manières. Je me juge comme un indifférent pourrait me juger, et je vois mes amis tels qu'ils sont. Je n'ai de prix que par une extrême bonté qui n'a assez d'activité, ni pour être appréciée, ni pour être véritablement utile, et dont l'impatience de mon caractère m'ôte tout le charme. elle me fait plus souffrir des maux d'autrui qu'elle ne me donne de moyens de les réparer. Cependant, je lui dois le peu de véritable jouissance que j'ai eue dans ma vie. Je lui dois surtout de ne pas connaître l'envie, apanage si ordinaire de la médiocrité sentie. Mondor, j'avais le projet d'entrer sur moi dans quelques détails, mais l'ennui me fait tomber la plume des mains. Tout ce que ma position a d'amère et de pénible se changerait en bonheur si j'étais sûre de cesser de vivre dans quelques mois. Quand j'aurai la force de mettre moi-même à mes chagrins le seul terme qu'ils puissent avoir, je ne l'emploierai pas. Ce serait aller contre mon but, donner la mesure de mes souffrances et laisser une blessure trop douloureuse dans l'âme que j'ai jugée digne de m'appuyer dans mes maux. Je me supplie en pleurant de prendre un parti aussi rigoureux qu'indispensable. Charlotte Corday prétend qu'il n'y a point de dévouement dont on ne retire plus de jouissance qu'il n'en a coûté de peine à s'y décider. Mais elle allait mourir, et je puis vivre encore longtemps. Que deviendrai-je? Où me cacher? Quel tombeau choisir? Comment empêcher l'espérance d'y pénétrer? Quelle puissance en murera la porte? M'éloigner en silence, me laisser oublier, m'ensevelir pour jamais, tel est le devoir qui m'est imposé et que j'espère avoir le courage d'accomplir. Si le calice est trop amer, une fois oublié, rien ne me forcera de l'épuiser en entier. Et peut-être que tout simplement, ma vie ne sera pas aussi longue que je le crains. Si j'avais déterminé le lieu de ma retraite, il me semble que je serais plus calme. Mais la difficulté du moment ajoute aux difficultés qui naissent de ma faiblesse. Et il faut quelque chose de surnaturel pour agir contre soi avec force, pour se traiter avec autant de rigueur que le pourrait faire un ennemi violent et cruel. Rome, ce 28 octobre. Depuis 10 mois, je n'ai pas cessé de souffrir. Depuis 6, tous les symptômes du mal de poitrine et quelques-uns au dernier degré. Il ne me manque plus que les illusions, et peut-être en ai-je. Monsieur Joubert, effrayé de cette envie de mourir qui tourmentait Madame de Beaumont, lui adressait ces paroles dans ses pensées. Aimez et respectez la vie, sinon pour elle, au moins pour vos amis. En quelque état que soit la vôtre, j'aimerais toujours mieux vous savoir occupé à la filer qu'à la découdre. Ma sœur, dans ce moment, écrivait à Madame de Beaumont. Je possède cette correspondance que la mort m'a rendue. L'antique poésie représente je ne sais quelle Néréide, comme une fleur flottant sur l'abîme. Lucile était cette fleur. En rapprochant ces lettres des fragments cités plus haut, on est frappé de cette ressemblance de tristesse d'âme, exprimée dans le langage différent de ces anges infortunés. Quand je songe que j'ai vécu dans la société de telles intelligences, je m'étonne de valoir si peu. Ces pages de deux femmes supérieures, disparues de la terre à peu de distance l'une de l'autre, ne tombe pas sous mes yeux qu'elle ne m'afflige amèrement. À Lascardais, ce 30 juillet. J'ai été si charmée, madame, de recevoir enfin une lettre de vous, que je ne me suis pas donné le temps de prendre le plaisir de la lire de suite tout entière. J'en ai interrompu la lecture pour aller apprendre à tous les habitants de ce château que je venais de recevoir de vos nouvelles, sans réfléchir qu'ici, ma joie n'importe guère, et que même presque personne ne savait que j'étais en correspondance avec vous. Me voyant environnée de visages froids, je suis remontée dans ma chambre, prenant mon parti d'être seule si joyeuse. Je me suis mise à achever de lire votre lettre, et quoique je l'ai relue plusieurs fois, à vous dire vrai, madame, je ne sais pas tout ce qu'elle contient. La joie que je ressens toujours en voyant cette lettre si désirée nuit à l'attention que je lui dois. Vous partez donc, madame. N'allez pas, rendue au Mondor, oublier votre santé. Donnez-lui tous vos soins. Je vous en supplie du meilleur et du plus tendre de mon cœur. Mon frère m'a mandé qu'il espérait vous voir en Italie. Le destin, comme la nature se plaît à le distinguer de moi d'une manière bien favorable. Au moins, je ne céderai pas à mon frère le bonheur de vous aimer, je le partagerai avec lui toute la vie. Mon Dieu, madame, que j'ai le cœur serré et abattu! Vous ne savez pas combien vos lettres me sont salutaires, comme elles m'inspirent du dédain pour mes maux. L'idée que je vous occupe, que je vous intéresse, m'élève singulièrement le courage. Écrivez-moi donc, madame, afin que je puisse conserver une idée qui m'est si nécessaire. Je n'ai point encore vu M. Chênedollé. Je désire beaucoup son arrivée. Je pourrai lui parler de vous et de M. Joubert. Ce sera pour moi un bien grand plaisir. Souffrez, madame, que je vous recommande encore votre santé, dont le mauvais état m'afflige et m'occupe sans cesse. Comment ne vous aimez-vous pas? Vous êtes si aimable et si chère à tous. Ayez donc la justice de faire beaucoup pour vous. Lucile. Ce 2 septembre. Ce que vous me mandez, madame, de votre santé, m'alarme et m'attriste. Cependant, je me rassure en pensant à votre jeunesse, en songeant que, quoique vous soyez fort délicate, vous êtes pleine de vie. Je suis désolée que vous soyez dans un pays qui vous déplaît. Je voudrais vous voir environnée d'objets propres à vous distraire et à vous ranimer. J'espère qu'avec le retour de votre santé, vous vous réconcilierez avec l'Auvergne. Il n'est guère de lieu qui ne puisse offrir quelque beauté à des yeux tels que les vôtres. J'habite maintenant Rennes, je me trouve assez bien de mon isolement. Je change, comme vous voyez, madame, souvent de demeure. J'ai bien la mine d'être déplacée sur la terre. Effectivement, ce n'est pas d'aujourd'hui que je me regarde comme une de ces productions superflues. Je crois, madame, vous avoir parlé de mes chagrins et de mes agitations. À présent, il n'est plus question de tout cela. Je jouis d'une paix intérieure qu'il n'est plus au pouvoir de personne de m'enlever. Quoique parvenu à mon âge, ayant, par circonstance et par goût, mené presque toujours une vie solitaire, je ne connaissais, madame, nullement le monde. J'ai fait enfin cette maussade connaissance. Heureusement, la réflexion est venue à mon secours. Je me suis demandé qu'avait donc ce monde de si formidable et où résidait sa valeur, lui qui ne peut jamais être, dans le mal comme dans le bien, qu'un objet de pitié. N'est-il pas vrai, madame, que le jugement de l'homme est aussi borné que le reste de son être, aussi mobile et d'une incrédulité égale à son ignorance? Toutes ces bonnes ou mauvaises raisons m'ont fait jeter avec aisance, derrière moi, la robe bizarre dont je m'étais revêtue. Je me suis trouvée pleine de sincérité et de force. On ne peut plus me troubler. Je travaille de tout mon pouvoir à ressaisir ma vie, à la mettre tout entière sous ma dépendance. Croyez aussi, madame, que je ne suis point trop à plaindre, puisque mon frère, la meilleure partie de moi-même, est dans une situation agréable, qu'il me reste des yeux pour admirer les merveilles de la nature. Dieu pour appui et pour asile un cœur plein de paix et de doux souvenirs. Si vous avez la bonté, madame, de continuer à m'écrire, cela me sera un grand surcroît de bonheur. Le mystère du style, mystère sensible partout, présent nulle part. La révélation d'une nature douloureusement privilégiée. L'ingénuité d'une fille qu'on croirait être dans sa première jeunesse, et l'humble simplicité d'un génie qui s'ignore, respire dans ses lettres, dont je supprime un grand nombre. Madame de Sévigné écrivait-elle à Madame de Grignan avec une affection plus reconnaissante que Madame de Caux à Madame de Beaumont? Sa tendresse pouvait se mêler de marcher côte à côte avec la sienne. Ma sœur aimait mon amie avec toute la passion du tombeau, car elle sentait qu'elle allait mourir. Lucile n'avait presque point cessé d'habiter près des rochers, mais elle était la fille de son siècle et la Sévigné de la solitude. Chapitre 2. Paris 1837. Arrivée de Madame de Beaumont à Rome. Lettre de ma sœur. Une lettre de M. Ballanche, datée du 30 Fructidor, m'annonça l'arrivée de Madame de Beaumont, venue du Mont-d'Or à Lyon et se rendant en Italie. Il me mandait que le malheur que je redoutais n'était point à craindre et que la santé de la malade paraissait s'améliorer. Madame de Beaumont, parvenue à Milan, y rencontra M. Bertin, que des affaires y avaient appelé. Il eut la complaisance de se charger de la pauvre voyageuse et il la conduisit à Florence, où j'étais allée l'attendre. Je fus terrifiée à sa vue. Elle n'avait plus que la force de sourire. Après quelques jours de repos, nous nous mîmes en route pour Rome, cheminant au pas pour éviter les cahots. Madame de Beaumont recevait partout des soins empressés. Un attrait vous intéressait à cette aimable femme, si délaissée et si souffrante, échappée seule de sa famille. Dans les auberges, les servantes même se laissaient prendre à cette douce commisération. Ce que je sentais peut se deviner. On a conduit des amis à la tombe, mais ils étaient muets et un reste d'espérance inexplicable ne venait pas rendre votre douleur plus poignante. Je ne voyais plus le beau pays que nous traversions. J'avais pris le chemin de Pérouse. Que m'importait l'Italie? J'en trouvais encore le climat trop rude, et si le vent soufflait un peu, les brises me semblaient des tempêtes. À Terni, Madame de Beaumont parla d'aller voir la cascade. Ayant fait un effort pour s'appuyer sur mon bras, elle se rassit et me dit « Il faut laisser tomber les flots ». J'avais loué pour elle à Rome une maison solitaire, près de la place d'Espagne, sous le mont Pincio. Il y avait un petit jardin avec des orangers en espalier et une cour plantée d'un figuier. J'y déposais la mourante. J'avais eu beaucoup de peine à me procurer cette retraite, car il y a un préjugé à Rome contre les maladies de poitrine regardées comme contagieuses. À cette époque de la renaissance de l'ordre social, on recherchait ce qui avait appartenu à l'ancienne monarchie. Le pape envoya savoir des nouvelles de la fille de M. de Montmorin. Le cardinal Consalvi et les membres du sacré collège imitèrent sa sainteté. Le cardinal Fesch lui-même donna à Madame de Beaumont jusqu'à sa mort des marques de déférence et de respect que je n'aurais pas attendu de lui et qui m'ont fait oublier les misérables divisions des premiers temps de mon séjour à Rome. J'avais écrit à M. Joubert les inquiétudes dont j'étais tourmentée avant l'arrivée de Madame de Beaumont. « Notre ami m'écrit du Mont d'Or, lui disais-je, des lettres qui me brisent l'âme. Elle dit qu'elle sent qu'il n'y a plus d'huile dans la lampe. Elle parle des derniers battements de son cœur. Pourquoi l'a-t-on laissée seule dans ce voyage? Pourquoi ne lui avez-vous point écrit? Que deviendrons-nous si nous la perdons? Qui nous consolera d'elle? Nous ne sentons le prix de nos amis qu'au moment où nous sommes menacés de les perdre. Nous sommes même assez insensés quand tout va bien pour croire que nous pouvons impunément nous éloigner d'eux. Le ciel nous en punit. Il nous les enlève et nous sommes épouvantés de la solitude qu'il laisse autour de nous. Pardonnez, mon cher Joubert, je me sens aujourd'hui mon cœur de 20 ans. Cette Italie m'a rajeuni. J'aime tout ce qui m'est cher avec la même force que dans mes premières années. Le chagrin est mon élément. Je ne me retrouve que quand je suis malheureux. Mes amis sont à présent d'une espèce si rare que la seule crainte de me les voir ravir glace mon sang. Souffrez mes lamentations. Je suis sûr que vous êtes aussi malheureux que moi. Écrivez-moi, écrivez aussi à cet autre infortuné de Bretagne. » Madame de Beaumont se trouva d'abord un peu soulagée. La malade elle-même recommença à croire à sa vie. J'avais la satisfaction de penser que, du moins, Madame de Beaumont ne me quitterait plus. Je comptais la conduire à Naples au printemps et de là envoyer ma démission au ministre des Affaires étrangères. M. d'Agincourt, ce véritable philosophe, vint voir le léger oiseau de passage qui s'était arrêté à Rome avant de se rendre à la terre inconnue. M. Boguet, déjà le doyen de nos peintres, se présenta. Ces renforts d'espérance soutinrent la malade et la bercèrent d'une illusion qu'au fond de l'âme elle n'avait plus. Des lettres cruelles à lire m'arrivaient de tous côtés, m'exprimant des craintes et des espérances. Le 4 octobre, Lucile m'écrivait de Rennes. J'avais commencé l'autre jour une lettre pour toi. Je viens de la chercher inutilement. Je t'y parlais de Madame de Beaumont et je me plaignais de son silence à mon égard. Mon ami, quelle triste et étrange vie que je mène depuis quelques mois. Aussi, ces paroles du prophète me reviennent sans cesse à l'esprit. Le Seigneur vous couronnera de maux et vous jettera comme une balle. Mais laissons mes peines et parlons de tes inquiétudes. Je ne puis me les persuader fondées. Je vois toujours Madame de Beaumont pleine de vie et de jeunesse et presque immatérielle. Rien de funeste ne peut à son sujet me tomber dans le cœur. Le ciel qui connaît nos sentiments pour elle nous la conservera sans doute. Mon ami, nous ne la perdrons point. Il me semble que j'en ai au-dedans de moi la certitude. Je me plais à penser que, lorsque tu recevras cette lettre, tes soucis seront dissipés. Dis-lui de ma part tout le véritable et tendre intérêt que je prends à elle. Dis-lui que son souvenir est pour moi une des plus belles choses de ce monde. Tiens ta promesse et ne manque pas de m'en donner le plus possible des nouvelles. Mon Dieu, quel long espace de temps il va s'écouler avant que je ne reçoive une réponse à cette lettre. Que l'éloignement est quelque chose de cruel. D'où vient que tu me parles de ton retour en France? Tu cherches à me flatter? Tu me trompes? Au milieu de toutes mes peines, il s'élève en moi une douce pensée, celle de ton amitié, celle que je suis dans ton souvenir tel qu'il a plu à Dieu de me former. Mon ami, je ne regarde plus sur la terre de sûr asile pour moi que ton cœur. Je suis étrangère et inconnue pour tout le reste. Adieu, mon pauvre frère, te reverrai-je? Cette idée ne s'offre pas à moi d'une manière bien distincte. Si tu me revois, je crains que tu ne me retrouves qu'entièrement insensée. Adieu, toi à qui je dois tant. Adieu, félicité sans mélange. Ô souvenir de mes beaux jours, ne pouvez-vous donc éclairer un peu maintenant mes tristes heures? Je ne suis pas de ceux qui épuisent toute leur douleur dans l'instant de la séparation. Chaque jour, ajouté au chagrin que je ressens de ton absence, et serais-tu 100 ans à Rome que tu ne viendrais pas à bout de ce chagrin? Pour me faire illusion sur ton éloignement, il ne se passe pas de jour où je ne lise quelques feuilles de ton ouvrage. Je fais tous mes efforts pour croire t'entendre. L'amitié que j'ai pour toi est bien naturelle. Dès notre enfance, tu as été mon défenseur, et mon ami, tu n'as toute ta vie cherché qu'à répandre du charme sur la mienne. Jamais tu ne m'as coûté une larme, et jamais tu n'as fait un ami sans qu'il ne soit devenu le mien. Mon aimable frère, le ciel qui se plaît à se jouer de toutes mes autres félicités, veut que je trouve mon bonheur tout en toi, que je me confie à ton cœur. Donne-moi vite des nouvelles de Madame de Beaumont. Adresse-moi tes lettres chez Mademoiselle Lamotte, quoique je ne sache pas quel espace de temps j'y pourrais rester. Depuis notre dernière séparation, je suis toujours, à l'égard de ma demeure, comme un sable mouvant qui me manque sous les pieds. Il est bien vrai que pour quiconque ne me connaît pas, je dois paraître inexplicable. Cependant, je ne varie que de forme, car le fond reste constamment le même. La voix du cygne, qui s'apprêtait à mourir, fut transmise par moi au cygne mourant. J'étais l'écho de ce ineffable et dernier concert. Chapitre 3. Lettre de Madame de Krudener. Une autre lettre, bien différente de celle-ci, mais écrite par une femme dont le rôle a été extraordinaire, Madame de Krudener montre l'empire que Madame de Beaumont, sans aucune force de beauté, de renommée, de puissance ou de richesse, exerçait sur les esprits. Paris, 24 novembre 1803. J'ai appris avant-hier par M. Michaud, qui est revenu de Lyon, que Madame de Beaumont était à Rome et qu'elle était très, très malade. Voilà ce qu'il m'a dit. J'en ai été profondément affligé. Mes nerfs s'en sont ressentis, et j'ai beaucoup pensé à cette femme charmante que je ne connaissais pas depuis longtemps, mais que j'aimais véritablement. Que de fois j'ai désiré pour elle du bonheur, que de fois j'ai souhaité qu'elle pût franchir les Alpes et trouver sous le ciel de l'Italie les douces et profondes émotions que j'y ai ressenties moi-même. Hélas, n'aurait-elle atteint ce pays si ravissant que pour n'y connaître que les douleurs et pour y être exposée à des dangers que je redoute? Je ne saurais vous exprimer combien cette idée m'afflige. Pardon si j'en ai été si absorbée que je ne vous ai pas encore parlé de vous-même, mon cher Chateaubriand. Vous devez connaître mon sincère attachement pour vous, et en vous montrant l'intérêt si vrai que m'inspire Madame de Beaumont, c'est vous toucher plus que je n'eusse pu le faire en m'occupant de vous. J'ai devant mes yeux ce triste spectacle. J'ai le secret de la douleur et mon âme s'arrête toujours avec déchirement devant ces âmes auxquelles la nature donna la puissance de souffrir plus que les autres. J'espérais que Madame de Beaumont jouirait du privilège qu'elle reçut d'être plus heureuse. J'espérais qu'elle retrouverait un peu de santé avec le soleil d'Italie et le bonheur de votre présence. Ah, rassurez-moi, parlez-moi, dites-lui que je l'aime sincèrement, que je fais des vœux pour elle. A-t-elle eu ma lettre écrite en réponse à la sienne à Clermont? Adressez votre réponse à Michaud. Je ne vous demande qu'un mot, car je sais, mon cher Chateaubriand, combien vous êtes sensible et combien vous souffrez. Je la croyais mieux, je ne lui ai pas écrit. J'étais accablé d'affaires, mais je pensais au bonheur qu'elle aurait de vous revoir, et je savais le concevoir. Parlez-moi un peu de votre santé. Croyez à mon amitié, à l'intérêt que je vous ai voué à jamais, et ne m'oubliez pas. B. Krodener. Chapitre 4. Paris 1838. Mort de Madame de Beaumont. Le mieux que l'air de Rome avait fait éprouver à Madame de Beaumont ne dura pas. Les signes d'une destruction immédiate disparurent, il est vrai, mais il semble que le dernier moment s'arrête toujours pour nous tromper. J'avais essayé deux ou trois fois une promenade en voiture avec la malade. Je m'efforçais de la distraire en lui faisant remarquer la campagne et le ciel. Elle ne prenait plus goût à rien. Un jour, je la menai au Colisée. C'était un de ces jours d'octobre, tels qu'on n'en voit qu'à Rome. Elle parvint à descendre et alla s'asseoir sur une pierre, en face d'un des autels placés au pourtour de l'édifice. Elle leva les yeux, elle les promena lentement sur ces portiques morts eux-mêmes depuis tant d'années et qui avaient vu tant mourir. Les ruines étaient décorées de ronces et d'encolis safranés par l'automne et noyées dans la lumière. La femme expirante abaissa ensuite, de gradins en gradins jusqu'à la reine, ses regards qui quittaient le soleil. Elle les arrêta sur la croix de l'autel et me dit « Allons, j'ai froid ». Je la reconduisis chez elle. Elle se coucha et ne se releva plus. Je m'étais mise en rapport avec le comte de la Luzerne. Je lui envoyais de Rome, par chaque courrier, le bulletin de la santé de sa belle-sœur. Lorsqu'il avait été chargé par Louis XVI d'une mission diplomatique à Londres, il avait emmené mon frère avec lui. André Chénier faisait partie de cette ambassade. Les médecins que j'avais assemblés de nouveau après l'essai de la promenade me déclarèrent qu'un miracle seul pouvait sauver Madame de Beaumont. Elle était frappée de l'idée qu'elle ne passerait pas le 2 novembre, jour des morts. Puis elle se rappela qu'un de ses parents, je ne sais lequel, avait péri le 4 novembre. Je lui disais que son imagination était troublée, qu'elle reconnaîtrait la fausseté de ses frayeurs. Elle me répondait, pour me consoler, « Oh oui, j'irai plus loin !» Elle aperçut quelques larmes que je cherchais à lui dérober. Elle me tendit la main et me dit « Vous êtes un enfant, est-ce que vous ne vous y attendiez pas ?» La veille de sa fin, jeudi 3 novembre, elle parut plus tranquille. Elle me parla d'arrangements de fortune et me dit, à propos de son testament, que tout était fini, mais que tout était à faire et qu'elle aurait désiré seulement avoir 2 heures pour s'occuper de cela. Le soir, le médecin m'avertit qu'il se croyait obligé de prévenir la malade, qu'il était temps de songer à mettre ordre à sa conscience. J'eus un moment de faiblesse. la crainte de précipiter, par l'appareil de la mort, le peu d'instants que Madame de Beaumont avait encore à vivre, m'accabla. Je m'emportai contre le médecin, puis je le suppliai d'attendre au moins jusqu'au lendemain. Ma nuit fut cruelle avec le secret que j'avais dans le sein. La malade ne me permit pas de la passer dans sa chambre. Je demeurai en dehors, tremblant à tous les bruits que j'entendais. Quand on entr'ouvrait la porte, j'apercevais la clarté débile d'une veilleuse qui s'éteignait. Le vendredi 4 novembre, j'entrai, suivi du médecin. Madame de Beaumont s'aperçut de mon trouble. Elle me dit « Pourquoi êtes-vous comme cela ? J'ai passé une bonne nuit. » Le médecin affecta alors de me dire, tout haut, qu'il désirait m'entretenir dans la chambre voisine. Je sortis. Quand je rentrai, je ne savais plus si j'existais. Madame de Beaumont me demanda ce que me voulait le médecin. Je me jetai au bord de son lit en fondant en larmes. Elle fut un moment sans parler, me regarda et me dit d'une voix ferme, comme si elle eût voulu me donner de la force. « Je ne croyais pas que c'eût été tout à fait aussi prompt. Allons, il faut bien vous dire adieu. Appelez l'abbé de Bonnevie. » L'abbé de Bonnevie, s'étant fait donner des pouvoirs, se rendit chez Madame de Beaumont. Elle lui déclara qu'elle avait toujours eu dans le cœur un profond sentiment de religion, mais que les malheurs inouïs dont elle avait été frappée pendant la Révolution l'avaient fait douter quelque temps de la justice de la Providence, qu'elle était prête à reconnaître ses erreurs et à se recommander à la miséricorde éternelle, qu'elle espérait toutefois que les maux qu'elle avait soufferts dans ce monde-ci abrégeraient son expiation dans l'autre. Elle fit signe de me retirer et resta seule avec son confesseur. Je le vis revenir une heure après, essuyant ses yeux et disant qu'il n'avait jamais entendu un plus beau langage, ni vu un pareil héroïsme. On envoya chercher le curé pour administrer les sacrements. Je retournai auprès de Madame de Beaumont. En m'apercevant, elle me dit « Eh bien, êtes-vous content de moi ?» Elle s'attendrit sur ce qu'elle daignait appeler mes bontés pour elle. Ah, si j'avais pu dans ce moment racheter un seul de ses jours par le sacrifice de tous les miens, avec quelle joie je l'aurais fait. Les autres amis de Madame de Beaumont, qui n'assistaient pas à ce spectacle, n'avaient du moins qu'une fois à pleurer. Debout, au chevet de ce lit de douleur, d'où l'homme entend sonner son heure suprême, chaque sourire de la malade me rendait la vie et me la faisait perdre en s'effaçant. Une idée déplorable vint me bouleverser. Je m'aperçus que Madame de Beaumont ne s'était doutée qu'à son dernier soupir de l'attachement véritable que j'avais pour elle. Elle ne cessait d'en marquer sa surprise, et elle semblait mourir, désespérée et ravie. Elle avait cru qu'elle m'était à charge, et elle avait désiré s'en aller pour me débarrasser d'elle. Le curé arriva à 11 heures, la chambre se remplit de cette foule de curieuses et d'indifférents qu'on ne peut empêcher de suivre le prêtre à Rome. Madame de Beaumont vit la formidable solennité sans le moindre signe de frayeur. Nous nous mîmes à genoux, et la malade revécut à la fois la communion et l'extrême onction. Quand tout le monde se fut retiré, elle me fit asseoir au bord de son lit et me parla pendant une demi-heure de mes affaires et de mes intentions avec la plus grande élévation d'esprit et l'amitié la plus touchante. Elle m'engagea surtout à vivre auprès de Madame de Chateaubriand et de M. Joubert. Mais M. Joubert devait-il vivre ? Elle me pria d'ouvrir la fenêtre parce qu'elle se sentait oppressée. Un rayon de soleil vint éclairer son lit et sembla la réjouir. Elle me rappela alors des projets de retraite à la campagne dont nous nous étions quelquefois entretenus, et elle se mit à pleurer. Entre 2 et 3 heures de l'après-midi, Madame de Beaumont demanda à changer de lit à Madame Saint-Germain, vieille femme de chambre espagnole qui la servait avec une affection digne d'une aussi bonne maîtresse. Le médecin s'y opposa dans la crainte que Madame de Beaumont n'expirât pendant le transport. Alors elle me dit qu'elle sentait l'approche de l'agonie. Tout à coup, elle rejeta sa couverture, me tendit une main, serra la mienne avec contraction. Ses yeux s'égarèrent. De la main qui lui restait libre, elle faisait des signes à quelqu'un qu'elle voyait au pied de son lit. puis reportant cette main sur sa poitrine, elle disait « C'est là ». Consternée, je lui demandai si elle me reconnaissait. L'ébauche d'un sourire parut au milieu de son égarement. Elle me fit une légère affirmation de tête. Sa parole n'était déjà plus dans ce monde. Les convulsions ne durèrent que quelques minutes. Nous la soutenions dans nos bras, moi, le médecin et la garde. Une de mes mains se trouvait appuyée sur son cœur qui touchait à ses légers ossements. Il palpitait avec rapidité comme une montre qui dévie de sa chaîne brisée. Oh, moment d'horreur et d'effroi, je le sentis s'arrêter. Nous inclinâmes sur son oreiller la femme arrivée au repos. Elle pencha la tête. Quelques boucles de ses cheveux déroulés tombaient sur son front. Ses yeux étaient fermés. La nuit éternelle était descendue. Le médecin présenta un miroir et une lumière à la bouche de l'étrangère. Le miroir ne fut point terni du souffle de la vie, et la lumière resta immobile. Tout était fini.